Bonjour, ici Luc Boussard pour Radio Divois, qui, rappelons-le, est désormais sur les ondes, sur la fréquence 107.5. Je suis aujourd'hui avec Claude Verret, que je n'ai pas besoin de présenter pour les auditeurs de Radio Divois. Claude Verret, qui est un des organisateurs des rencontres de l'écologie, qui doivent commencer ce mois-ci, le 21, je crois. Donc Claude, pour commencer, l'an dernier, on avait eu un petit interview pour faire le bilan des rencontres précédentes qui s'appelait, si je ne me trompe, Grandir en humanité. Celle-ci s'appelle Vivre la transition.
Alors, bonjour d'abord à toi et bonjour à vos auditeurs. Ce sont les 10e rencontres et certes, il y a une évolution. Il y a une évolution des rencontres de l'écologie. Et puis, il y a une évolution de la société aussi. Et quand on a choisi tous ensemble ce titre de transition, bien évidemment, on a pensé d'abord à la transition démocratique auquel on assistait avec ce printemps arabe, avec les révolutions au Maghreb, et dont on a beaucoup parlé de transition à ce moment-là. Et puis, la transition énergétique, bien évidemment, puisqu'on a, cette année, quand même, on a eu Fukushima, le 10 mars, et donc ça a impacté aussi toute notre réflexion, et je pense que pas seulement la nôtre, celle de la société, en matière énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas une transition obligée, une transition nécessaire de notre façon de consommer l'énergie, et bien sûr nucléaire, l'électricité, et donc par conséquent dans nos modes de vie.
Je pense que le mot transition quand même pose des questions, parce que d'abord on pourrait dire le pire, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de transition, que les choses sont irréversibles, et qu'on va droit au mur. Tu parlais de l'énergie dans bien des domaines. Est-ce que, d'après toi, il est encore temps d'opérer une transition?
D'abord, c'est une question difficile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens sur la Terre qui seraient en capacité de répondre assez clairement à cette question. Avec une vision optimiste, on peut dire que c'est le seul choix. Si on se réfère à tout ce qui arrive aujourd'hui sur la planète au niveau énergétique, on parlait il y a quelques secondes de Fukushima, des plateformes pétrolières qui se dispersent dans les océans, si on parlait de la fonte des glaciers, si on parle de la fonte des deux pôles, à peu près la moitié de la biodiversité qui est fortement en danger aujourd'hui, on prévoit dans les 10-20 ans la disparition quasiment de tous les poissons dans les océans. Si on regarde les pollutions chimiques, le bruit, la surpopulation, la famine organisée dans tous les pays du Sud, avec cette vision-là qui impacte fortement nos corps, nos sentiments, nos esprits, oui, on pourrait dire à quoi ça sert tout ça, et rester dans un pessimisme ou un catastrophisme ambiant. Moi, je trouve que ça touche vraiment tout le monde, ce catastrophisme en plus. Les rencontres de l'écologie partent d'un principe optimiste, c'est que malgré tout ça, l'homme a des capacités, peut être capable du meilleur, surtout dans les moments extrêmement difficiles. Moi, je pense, puisque je suis du Vercors, je pense au moment du fascisme, par exemple, dans les années 1933-1939. Et bien, dans les moments les pires, des hommes et des femmes peuvent être capables du meilleur. Et on va jouer, nous, cette carte du meilleur chez l'homme en disant, eh bien oui, il va y avoir peut-être des drames, il va y avoir, je ne peux même pas dire il va y avoir des guerres, parce que des guerres aujourd'hui sur la planète, il y en a une cinquantaine en cours. Il va y avoir des drames peut-être au niveau de la frustration pour nous qui sommes habitués à la consommation. Si un jour il y a vraiment un grave problème en matière énergétique, en matière de flux de transport, il risque d'y avoir de terribles frustrations chez ceux qui ont misé beaucoup sur la consommation matérielle. Aux rencontres de l'écologie et écologie au quotidien, on a fait le pari, ça rejoint le grandir en humanité de l'année passée, sur les qualités humaines, et des hommes et des femmes nous ont montré dans leur quotidien qu'ils étaient capables du meilleur, de bonté, de générosité, de partage, d'intelligence collective aussi, de faire la paix parfois. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va insister, parce que même si on tourne, on évite, on passe au-dessus d'un drame civilisationnel, je pense, comme ça s'est peut-être produit sur certaines autres civilisations, il faut que nous, humains, soyons en capacité de dépasser ça pour demain construire, peut-être, je l'espère, une société plus juste, plus humaine, plus généreuse et plus fraternelle.
Plus respectueuse,
aussi, bien évidemment. Ça rejoint, respectueuse de l'environnement, ça rejoint pour moi intimement respectueuse de soi, respectueuse des autres. Le respect est une démarche aussi Après transition, on l'a mis aussi dans le sous-titre énergétique, bien évidemment, économique, social.
Social, oui.
Trois mots qui nous semblaient s'emboîter et se marier à la perfection, vu les crises que l'on traverse, hein, puisqu'il y a une crise énergétique, on le sait, on l'a pointé du doigt, mais il y a une crise économique, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire la démonstration avec ce qu'on a vu en Grèce, en Italie, et puis en Irlande, en Islande, en Portugal, mais dans la moitié du monde en réalité, toute une partie de l'Asie, de l'Afrique sont dans des situations, et même d'Amérique centrale sont dans des situations économiques dramatiques. Il y a une mutation économique à faire, une mutation ou une transition, et sociale aujourd'hui, et ça aussi, pour nous, ça fait partie de la démarche de justice sociale qu'exige l'écologie. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s'est accru, ça n'a jamais été aussi fort. C'est quasiment une société qui est insoutenable au niveau de cette inégalité. Donc la transition, on la voit bien accompagnant. On l'a rajouté au début, on avait rajouté transition démocratique à ces trois items. Peut-être que la transition démocratique, elle va s'opérer d'abord dans les pays du Sud, hein, comme la Tunisie, l'Égypte, peut-être la Syrie. Est-ce qu'en Europe, on a le culot de parler de transition démocratique, bien qu'on sache, et avec les indignés et d'autres mouvements, que l'on doit avoir une vision politique autre que la captation du pouvoir ad vita aeternam par une classe aujourd'hui qui est quand même une classe privilégiée, blanche, masculine. On peut parler de transition démocratique, mais peut-être que ce sera le thème de 2013 ou 2014. On va y arriver tout doucement. Il n'y a pas de champ où il n'y aura pas de transition. Il n'y a pas de champ où il n'y aura pas des alternatives à rechercher. La démocratie est aussi un champ où nous devons améliorer grandement les choses et peut-être que ce sera un thème du futur.
Quand j'ai lu, moi, transition énergétique, économique, sociale, je me suis rendu compte que c'était un choix. Et si tu veux, moi, il m'a paru qu'il y avait d'autres épithètes qui auraient pu être présentes. Il y aurait pu y avoir politique, par exemple, tu
Oui.
vois. Il y aurait pu y avoir spirituel, il y aurait pu y avoir éthique. Quand je regarde le programme plus en détail, je m'aperçois que tous ces aspects-là sont présents, en fait, même s'ils ne sont pas affirmés dans le titre. Hein.
C'est exact.
Ouais. Tu penses qu'il y a des combats qui sont engagés, qui peuvent être victorieux, comme par exemple a été le Larzac. On ne s'appelait pas encore comme ça, mais pour les indignés que nous étions, on n'a pas beaucoup de victoires à notre actif qu'on peut brandir. Il y en a quand même quelques-unes, dont le Larzac. Et tu penses que là, les mouvements en cours peuvent déboucher, je ne sais pas moi, la lutte contre le nucléaire, les mouvements au Moyen-Orient, tu penses qu'il y a des espoirs de ce côté-là?
Il y a la conjugaison de deux choses. Il y a la conjugaison d'une société qui arrive aujourd'hui à bout de souffle. Société qui, en matière économique, financière, avec une spéculation éhontée, hein, on peut le dire, y compris sur les matières alimentaires, donc c'est scandaleux. Jean Ziegler appelait dans un journal, dans le Courrier de Genève la semaine dernière, à passer les spéculateurs devant un tribunal comme on a fait à Nuremberg, quasiment, parce que chaque année, chaque jour, des milliers de personnes meurent de faim à cause de la spéculation sur les produits alimentaires. Donc, la société arrive, pour moi, d'elle-même à un bout de course. La consommation des matières premières, l'exploitation des pays du tiers-monde, on parlait tout à l'heure de la destruction des forêts, la destruction de la nature, des forêts en particulier pour nos bagnoles, la fonte des glaces, etc. On arrive à un système où le système lui-même est en train de se miner de l'intérieur. Il se préserve, il se carapassonne derrière tout un système, la presse, la police, le flicage, tout un système pour essayer de contenir au maximum les populations les plus paupérisées, les plus précarisées et les plus conscientes aussi. Et de l'autre côté, il semble qu'il y a un réveil. On n'aurait pas pu imaginer, il y a un an ou 2 ans, même quand on a fait l'interview, ce qui allait se passer dans le printemps arabe, ce qui allait le mouvement des indignés et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. À la mesure, c'est Edgar Morin qui dit quand on est au fond de la piscine, l'abîme, on est quasiment obligé de remonter. Et je pense que là, en matière de société, je ne sais pas si on a touché le fond. C'est difficile de dire on a touché le fond après Auschwitz et Hiroshima. Mais on est en matière financière, en matière économique, en matière sociale et en matière écologique, on est en train de toucher le fond. Est-ce qu'on a d'autres choix que de devoir remonter? Et donc ces initiatives, cette créativité des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux à certains endroits et des mouvements démocratiques sur l'ensemble de la planète sont une lueur d'espoir pour moi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se conjuguer. Une société en perte de valeur, perte de repères, et peut-être avec des grands pans qui vont s'effondrer, et avec mille et une initiatives qui sont en train de fleurir de partout, dans tous les pays, dans tous les domaines agricoles, urbanistiques, d'habitat, de médecine, de démocratie participative. Je pense qu'ils sont en train de faire germer ce qui pourrait être demain des alternatives à un système qui ne fonctionne plus. C'est cette conjugaison des deux. Je ne pense pas que le mouvement des indignés ou les mouvements ex-altermondialistes ou les mouvements populaires que l'on voit très fréquemment, particulièrement dans les pays du Sud, soient plus forts ou plus en capacité que lors des mouvements d'indépendance dans les années 60 ou en 1936 chez nous. Non, mais en 1936 ou en 1968, la société était encore en capacité d'offrir des plages où pouvaient se réaliser les rêves encore du prolétariat ou les rêves d'une partie de la population. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le politique et la société ne peuvent plus offrir de plages pour les rêves de nos enfants.
Par transition, on est à un passage entre deux mondes, le vieux monde et le monde qu'on doit construire. On a un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Et tu dis qu'on ne peut pas, je crois que c'est un thème qu'on avait déjà abordé l'an dernier, mais ça fait rien, tu dis qu'on ne peut pas compter sur le système, les appareils politiques tels qu'ils sont à l'heure actuelle pour opérer cette transition.
Que demain le monde soit écologique, c'est le béaba, parce que la seule planète dont nous disposons conditionne la vie des humains. Hein. Donc en matière d'eau, en matière de forêt, en matière de photosynthèse, en matière d'alimentation et de qualité des terres, il est indispensable, si on veut qu'il y ait une survie pacifique, voire généreuse de l'humanité, il est indispensable de préserver au maximum cet écosystème, particulièrement là où il est le plus mis à mal, et on pense à des pans entiers de la forêt amazonienne, par exemple, ou indonésienne. Ce qu'on ne peut pas imaginer, et je crois qu'on en a les preuves depuis ce qu'on appelle la crise, mais qui n'est pas vraiment une crise, qui est une dérive d'un système qui glisse vers cette pente-là, depuis, grosso modo, depuis 73, on peut dire que, je crois aussi, avec sincérité, que le système n'est pas en capacité de prendre conscience de la destruction qu'il enclenche, qu'il engendre, et qu'avant la fin ultime, entre guillemets, il va se reprendre et dire « nous allons trop loin, nous allons rectifier le tir, nous allons protéger l'océan, les pôles, la forêt, les rivières, les terres agricoles ». Non. Moi, je ne crois pas, parce qu'on aurait eu des signes, avant-coureurs qui nous auraient fait dire « bon, ben, il y a un... » Alors, on peut trouver une ou deux ou trois personnes de l'élite qui peuvent avertir, qui peuvent être des lanceurs d'alerte, mais en général, ils n'arrivent pas à impacter un système dont les valeurs sont vraiment une sorte de prédation sur le planétaire, avec bien évidemment les profits qui s'en dégagent. On voit la difficulté aujourd'hui, puisqu'on reparle de taxes Tobin et de cette taxation des transactions financières, la difficulté à mettre en place ce 0,01% sur les transactions, alors que même le système devrait s'y retrouver quand on voit des crises comme traverse la Grèce, même le système devrait s'y retrouver. Et bien même là-dessus, nos décideurs ne sont pas en capacité de dire « ouais, là on est allé vraiment trop loin, on va essayer de rectifier un peu le tir et déjà de mettre une taxe sur les transactions financières ». Je crois qu'il y a une volonté délibérée de ne pas toucher à leur système de prédation et de profit. Et donc, on ne peut pas compter sur nos politiques qui ont été dépossédées aujourd'hui. Quelle puissance a un politique aujourd'hui face à des multinationales qui ont un budget, je pense à certaines comme Apple ou Total, qui ont un budget qui est égal parfois le budget de l'Espagne ou qui ont des budgets colossaux. Le système économique est un système totalitaire, hein, il faut aujourd'hui, on peut le dire, puisque dans la crise grecque, on voit que ce sont des techniciens économiques qui ont pris le pouvoir et le pas sur le politique. On voit par exemple que Berlusconi n'est pas tombé en Italie par les votes des électeurs, mais il est tombé par une décision quasi de l'Europe en matière économique. Donc, pour moi, il y a un diktat économique qui s'étend sur la planète et il y a une captation, oui, de la démocratie, une violation de la démocratie sur notre planète par le système économique qui est en train d'en prendre les rênes.
Il y a quelque chose même d'assez monstrueux, c'est-à-dire que maintenant ce sont aux gens qui sont directement la cause de la catastrophe, de la crise, qu'on demande de trouver des solutions. Et ça passe comme une lettre à la poste. Il y a quand même des questions à se poser sur ce que tu appelles la démocratie.
On savait que la démocratie était un système imparfait, Hyper Churchill l'avait déjà pointé. On savait que c'était un système qui était à améliorer quasiment au quotidien, et on le savait, puisqu'il a fallu attendre 120 ans, par exemple, pour obtenir le vote des femmes, alors qu'on l'avait déjà imaginé, Condorcet l'avait déjà imaginé en 93. Donc on sait que c'est un long processus. On pouvait imaginer que la démocratie, avec le temps, s'enrichirait, parce que avec une certaine citoyenneté intériorisée, avec des processus collectifs de citoyenneté plus engageants, des enjeux aussi peut-être plus clairs au niveau du partage des richesses, au niveau de l'égalité homme-femme, je ne sais pas, il y aurait pu y avoir une... Et puis, bien sûr, grâce à la participation, la démocratie participative, voire délibérative, où on amenait les citoyens à se réunir en compagnie, à côté, en complément des élus pour enrichir cette démocratie. Il n'en est rien. Il n'en est rien aujourd'hui. Il y a des bribes de ce que je viens de dire, mais en réalité, elles butent immédiatement sur la décision économique, ou parce qu'il n'y a pas les financements pour ce que veulent les citoyens, ou parce que les entreprises ont décidé totalement autre chose en la matière. Ça peut être sur les OGM, ça peut être sur le nucléaire. On a vu quand même comment la proposition de contrat, de convention entre les écologistes et François Hollande a été modifiée par une entreprise avant publication. Alors là, on se demande jusqu'où peut aller le pouvoir économique en matière de décision, c'est-à-dire que c'est lui qui fait et qui défait les princes aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème de démocratie.
Je me souviens, l'an dernier, une de tes formules, bon, qui n'est pas de toi, qui est assez connue, qui était un problème global, solution locale. Et il me semble, si tu veux bien dire ton point de vue là-dessus, que c'est ici maintenant, autour de soi, qu'on peut arriver à changer les choses. Est-ce que le projet des rencontres de l'écologie se situe un peu dans cette perspective-là?
Le projet d'écologie au quotidien et des rencontres se situe pleinement dans la participation citoyenne et ce qu'on appelle la démocratie participative. Il est dans ses propositions et il est dans sa mode de fonctionnement. Il est dans ses propositions parce qu'on peut le lire dans le programme à travers toutes les présentations qu'il a fait d'une multitude de sujets. Dans tous les domaines, on annonce et on imagine et on propose que ce soit les citoyens qui reprennent leur avenir à bras-le-corps. Ça, c'est une démarche qu'on voudrait voir fleurir. C'est le principe de responsabilité. On est responsable de ce qu'on fait. Après, la démocratie participative aussi, c'est que quand un nombre de citoyens sont en capacité d'être assez nombreux pour dire aujourd'hui, nous voulons des pistes cyclables ou nous voulons que les terres agricoles de la zone périphérique de 10 soient protégées, et qu'on arrête d'y couler du goudron ou du béton, que ces citoyens soient écoutés. Parce que, alors je ne sais pas s'ils font la majorité ou s'ils sont une minorité, mais en tout cas, ils font une proposition qui a le mérite d'exister, ils font une proposition qui est argumentée en fonction d'un avenir désirable. Et donc, de ce moment-là, c'est aussi de la démocratie participative. Alors, pour l'instant, les élus ont les manettes. Et donc, c'est dans les rencontres de l'écologie, nous faisons des propositions aux élus et aux administrations et aux institutions. On est dans une phase de transition, comme on disait initialement. On voit que beaucoup de propositions de la société civile, du monde associatif et des mouvements sociaux ont peine à être écoutées. Donc on ne sait pas aujourd'hui, dans la transition qui va s'annoncer au niveau de la démocratie, si c'est les élus qui vont écouter attentivement et s'allier, on peut dire presque, avec la population pour essayer de contrebalancer ce totalitarisme économique, ou s'ils vont être les complices d'un système économique parce qu'ils y retrouvent leur intérêt et leur pouvoir, et donc où on va être toujours en but contre le politique. Si on est toujours à lutter contre le politique, à un moment, je pense qu'on n'est plus dans la période de 1789 ou de 1917, on est dans une façon où des méthodes de travail, des méthodes de résistance, où je pense qu'on est plus amené à contourner l'obstacle, à reconstruire les alternatives, à reconstruire des solidarités ensemble, plutôt qu'à toujours quémander aux politiques des solutions qu'il n'a pas envie de mettre en place. Donc aujourd'hui, je pense que la participation, c'est aussi être en capacité, nous ensemble, tous citoyens, tous de bonne volonté, à faire de l'éco-habitat, à faire de protéger nos forêts en les achetant collectivement. On retrouve ça dans le programme, oui, d'acheter des terres en commun, d'acheter de protéger nos rivières. Et puis, bien évidemment, une démarche qui fait que si on en peine à avoir des rivières propres, c'est de ne pas les polluer soi-même, c'est de revenir à des énergies renouvelables soi-même. Donc oui, il y a nous sommes les auteurs de la société que nous allons construire. On peut le dire comme ça. Et puis peut-être pour finir sur la question, l'écologie au quotidien, dans son fonctionnement interne, essaye d'être exemplaire en matière de démocratie participative. Il essaye d'incarner ce qu'il dit. Et donc, c'est pour ça que c'est un projet qui, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est un projet qui est assez laborieux à mettre en place. Parce qu'on a une vingtaine de réunions préparatoires avec une centaine de bénévoles. Chaque fois, il y a 25, 35 personnes qui ne sont pas des fois les mêmes exactement d'une réunion à l'autre. Et chacun fait des propositions en matière de thème, en matière d'intervenants, en matière d'exposition, en matière de film, en matière de pièces de théâtre. Et il faut arriver à conjuguer tout ça, c'est un système participatif en interne, à conjuguer tout ça pour que tout le monde y retrouve ses petits, que personne ne soit frustré parce que le thème auquel il avait pensé a été abandonné pour une raison peut-être technique, parce que c'est surchargé. Et donc, c'est un travail en interne de co-construction d'un projet où finalement on met en pratique ce respect par rapport aux autres qui sera exigé demain dans la société quand on sera amené à construire des projets collectifs plus importants.
Pour moi, si je puis me permettre, c'est exactement ça la transition. C'est-à-dire que dès maintenant, on apprend à mettre en œuvre d'autres modes de fonctionnement. Bon, je rappelle que nous sommes sur Radio Diwa 107.5 avec Claude Verret pour parler des 10e rencontres de l'écologie. J'ai vu dans le programme que tous les thèmes de l'écologie que tu as évoqué tout à l'heure sont évoqués, hein, et aussi des thèmes un peu plus combatifs comme la sortie du nucléaire. Et puis il y a un autre aspect qui est lié à la beauté, à la poésie, au ludique, au jeu du corps et de l'esprit. Et alors je me souviens plus, est-ce que c'est nouveau ça ou...
Alors c'est plus prononcé qu'habituellement.
Oui.
Quand on a commencé les rencontres de l'écologie il y a 10 ans, on était sur des thèmes absolument écologistes, style
puriste,
un peu puriste, ouais. Sortir du nucléaire, on retrouvait déjà à l'époque, ou d'autres, je ne sais pas si on avait déjà les OGM dans le collimateur, mais en tout cas on avait la proposition de l'agriculture biologique, on avait déjà des thèmes qui sont chers aux écologistes. Et on les retrouve cette année. On a aussi des temps forts sur le nucléaire, sur les gaz de schiste, sur les luttes en cours.
Sur le
pillage
du tiers-monde, sur la dégradation de l'eau.
Oui. Mais en même temps, on s'est aperçu, mais c'est aussi notre cheminement personnel, je pense. Hein. On est passé peut-être d'écologiste, je le dis gentiment parce que je ne pense pas que ça a été... On n'a jamais été des écologistes purs et durs, d'un écologisme plus radical à un écologisme où l'on va construire les choses ensemble en se faisant plaisir et en faisant plaisir à nos voisins. C'est-à-dire pas, d'un côté, pas culpabiliser nos enfants, nos grands-parents, nos voisins, nos arrière-grands-parents parce qu'ils ne sont pas comme nous voudrions qu'ils soient. Donc, essayer d'introduire cette notion de respect et de responsabilité et de bienveillance vis-à-vis de nos semblables, parce qu'on ne construira pas un mode écologiste tout seul dans notre coin. On a beaucoup appris à conjuguer à fraterniser sur des sujets avec nos semblables, même ici même. Tu vois, ici, je fais un jardin biologique depuis 17 ans. Il est immense. Je crois que j'ai à peu près de quoi nourrir 10 personnes. Je donne à ma voisine qui a 91 ans des légumes, je donne à mon voisin des coulis de tomates et tout. Ils savent que c'est en agriculture biologique. Aujourd'hui, ma voisine, elle est plutôt favorable à l'agriculture biologique. Elle est très attentive à ces thèmes-là, elle fait très attention. Alors, au niveau humain aussi, ça a des incidences parce qu'elle vivait toute seule, mais le fait qu'on parle beaucoup de partage, de fraternité, d'humanité, elle a loué un petit studio au-dessous de chez elle qui n'était jamais loué à une jeune fille qui est en formation. Donc, il y a tout un travail de mise en place de petites solutions alternatives à l'échelle de chacun, qui fait qu'on est dans cette vision, dans cette transition humaine. Ça, c'est très, très important. Alors, au niveau personnel, pour revenir à la question, c'est un peu cette cohérence. Pendant longtemps, je pense à certains militants de la belle époque, des années 60-70, on disait, il faut, ou tu te rappelles, il faut Yaka, on va prendre le pouvoir, et puis, ou bien, il faut changer, etc. En définitive, ces slogans ont buté d'abord sur leur crédibilité, parfois, sur le fait qu'ils n'aient pas été repris par le monde politique, sans doute, mais aussi parce que parfois, ça restait des slogans et que nous n'avons pas été en capacité, nous, de donner l'exemple de ce que nous avancions. Alors c'est bien beau de crier la fraternité, ou par exemple sur une manif, et puis de rentrer chez soi sans voir que son voisin est malade ou que sa voisine, ça fait un mois qu'elle ne peut pas sortir de chez elle parce qu'elle est grabataire. Donc il y a un moment, il faut peut-être faire moins de slogans et moins de manifs, mais il faut être ce que l'on dit. Et c'est ça aussi les rencontres de l'écologie, c'est-à-dire c'est peut-être invisible, en tout cas c'est moins spectaculaire qu'organiser des grandes manifs. Mais en tout cas, c'est dans notre quotidien, arriver à mettre en pratique cette écologie personnelle, cette écologie profonde, qui fait qu'on est en harmonie avec notre voisinage. On l'est avec la nature peut-être, on l'est avec nos relations sociales, publiques et associatives, on essaye, mais le champ dans lequel on peut l'être le plus est... Peut-être celui qui apporte le plus de satisfaction, en tout cas à nos voisins, c'est celui d'une écologie personnelle. Tous les jours ou régulièrement, on peut aller voir une vieille voisine et lui apporter un sourire ou une botte de carottes. Ça, c'est aussi l'écologie.
Il s'agit effectivement, concrètement, précisément, de transition, parce qu'il y a un passage à l'acte, une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit sur notre environnement. Une présence concrète dans son entourage. Je partage complètement ton point de vue et je pense que c'est probablement là qu'on peut parler de transition, parce qu'il y a ce changement de mentalité qui s'est opéré et qui est contagieux. Quand on arrive à faire ce changement pour soi-même, les autres changent autour de nous.
Absolument. Oui, je crois que c'est ça, tu l'as bien dit.
Je voudrais, bon, pour terminer, parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle, on distingue une écologie intérieure et une écologie politique. Et je pense que votre projet, c'est un petit peu d'opérer une synthèse des deux. Hein? Et dans cet article-là, je vois l'écologie n'a de sens que si la spiritualité y est intégrée à part entière. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je le pense profondément, avec toutes les guillemets qu'il faut mettre quand on va sur ce champ-là, parce qu'il y a toute un champ de la personnalité humaine, par le biais de la société matérialiste, qui a été évacuée avec perte et fracas. Quand on parle spiritualité, on imagine tout de suite dérive sectaire ou
religieuse.
Religieuse. En réalité, la spiritualité, c'est quelque chose de fondamental dans la vie des hommes. Souvent, même nous-mêmes, on trouve très abouti ou très sincère la spiritualité d'un peuple au cœur de l'Amazonie qui n'a jamais été touché par la civilisation matérialiste. Mais en réalité, cette spiritualité ou ce sacré, c'était celui des personnes aussi ici qui nous ont précédés, et c'est quelque chose qui a été évacué avec violence.
Parce que c'est pas monnayable.
Voilà. C'est pas monnayable, et puis ce sont des jalons qui permettent aussi des évolutions. La spiritualité, c'est comme la démocratie, ça s'enrichit, c'est progressif, c'est un long processus, c'est jamais abouti, et c'est quelque chose qui permet. On parlait tout à l'heure de cohérence. Je pense aussi que c'est cette capacité à être ce que l'on dit, à avoir du recul par rapport aux choses et aussi à regarder au plus profond de soi si on est vraiment dans cette cohérence, et si on y est bien. Et si on est vraiment au moment où on dit quelque chose, est-ce qu'on est vraiment ce qu'on dit? Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on dit? Ou est-ce qu'on est, on pense pas au passé ou au futur? Est-ce qu'on est vraiment présent à la vie? Et cette présence à la vie, c'est ça la spiritualité. C'est la présence à la vie, à sa vie, c'est la présence à la vie des autres. Quand tu me parles, je t'écoute, je ne suis pas déjà en train de penser à ce que je ferai demain ou après-demain. Et puis c'est cette relation à la nature aussi. Alors ce n'est pas de l'animisme, c'est le respect d'une nature qu'on méconnaît et qui nous permet aussi de vivre sur notre petite planète. Aujourd'hui, en matière de biologie et en matière de forêt, on va vers de grandes découvertes. Des chercheurs du CNRS sont en train de découvrir que les arbres, par exemple, sont, avant d'être des arbres, sont chargés d'ions négatifs qui permettent une relation posée aux humains et qu'ils font ce lien entre la terre et le ciel qui sont indispensables. Ça, c'est Francis Allais qui dit ça. C'est quelque chose qu'on a complètement ignoré. Quand on déforeste à coups de bulldozer, on est bien loin de cette vision sacrée de la forêt. On est en train aussi d'explorer aujourd'hui les relations qu'il y a entre les végétaux, les systèmes d'entraide entre les végétaux. Francis Allais disait aussi que, par exemple, quand un végétal est en manque d'éléments nutritifs, il peut avertir d'autres végétaux qui sont en capacité de diluer des éléments minéraux dans le sol pour venir l'aider. Donc on est aujourd'hui dans des situations où parle une vision matérialiste totale, et le scientisme en est une version, on a évacué tout le sacré et tout ce qu'il y avait d'essentiel dans la nature et dans l'humain aussi. Et aujourd'hui, pour reprendre ton expression, cette spiritualité, ce sacré, cette cohérence, cette responsabilité par rapport à nous-mêmes, d'être vraiment ancré dans ce que nous sommes, oui, c'est indispensable. C'est une écologie du cœur, c'est une écologie aussi où on apprend cette douceur de vivre avec soi-même. Je sais pas, c'est un peu compliqué quand on parle. Enfin, moi, quand tu parles, moi.
Je trouve que ta réponse est très claire. Hein. Je trouve que ta réponse est très claire et, en ce qui me concerne, très satisfaisante. Mm-hmm. Quand tu parles de cohérence, de présence, de ne pas d'être mm-hmm. vraiment ici et maintenant et non pas dans le présent, dans le, mm-hmm. je veux dire, dans le futur, dans le passé, dans nos rêves. Mm-hmm. Et quand tu parles de présence à l'ordre naturel, d'harmonie. De toute façon, je pense que cette spiritualité était. Présente chez les fondateurs de l'écologie.
Absolument. C'est quelque chose qui a été. C'est vrai, on a une société laïque, mais on a une société laïque qui bien comprise, permet, enfin pour moi en tout cas, permet toutes les spiritualités. Mais il y a une partie de la loi qui a été mal interprétée et qui fait que. De l'instant qu'on est dans une société laïque, tout le monde doit être athée quasiment et évacuer complètement ce côté, entre guillemets, irrationnel. C'est bien méconnaître la loi. Quand Aristide Briand a fait voter cette loi sur la laïcité, il a dit au Parlement, il a dit à l'Assemblée nationale, c'est le seul moyen de préserver toutes les croyances, toutes les consciences et toutes les religions. Mmh. Un des plus beaux textes sur la spiritualité est un texte de Jaurès.
Ah oui ?
Oui. Ça veut dire que des fondateurs même des réflexions sur la liberté des travailleurs, sur l'émancipation de la classe ouvrière, étaient des textes empreints de cette spiritualité. Mais ça a été évacué parce qu'on est dans une situation... Oui, comme tu dis, c'est pas marchandisable et donc on a évacué tous ces aspects-là. Et puis, on n'est pas dans un système où on veut que les gens soient vraiment conscients, consciencieux et complètement. Donc, on est dans un système de décervelage avec les médias et avec
Pour moi, c'est un aspect fondamental. L'aliénation, le décervelage, comme tu dis.
Et bien, ça, c'est retrouver une part de nous-mêmes, cette spiritualité. C'est retrouver une part essentielle de nous-mêmes. Celle qui ne nous fait pas faire des choses absurdes. Qui ne nous lance pas dans l'hyperconsommation, qui fait que quand on arrive, qu'il n'y a que deux sacs de pâtes dans un supermarché, et ben on s'est partagé, on n'est pas obligé de se précipiter sur les deux qui restent. Tout ça, c'est cette conscience supérieure qu'on est en capacité d'avoir, qu'on a essayé de nous extirper, et qu'il faut qu'on retrouve. Ça fait partie de nous, comme toutes les alternatives que nous sommes en train de construire.
On va dire que c'est le fond de l'humanité.
Absolument. Ouais. C'était bien le grandir en humanité de l'année passée. Ouais. Mais tu sais, c'est depuis 10 ans, si tu prends les thèmes des rencontres de l'écologie, et Thierry Geffray, l'ancien président de la communauté de communes, l'avait fait dans une inauguration pour se faire plaisir et nous faire plaisir. Il avait repris tous les titres et il les avait mis à la queue leu-leu. Alors c'était habiter la terre, fêter le vivant, je ne les ai plus tous en tête, grandir en humanité.
Maintenant on est dans la transition, donc on est déjà dans l'avenir.
Voilà. Finalement, il y a un fil vert ou un fil rouge, je ne sais pas, de ces 10 rencontres qui fait qu'on poursuit quelque chose d'assez clair et identifiable, hein, qui est le vivant en définitive, qui est la vie, qui est la beauté, pour rejoindre aussi un des thèmes dont tu parlais tout à l'heure.
Et la poésie, même.
Et la poésie. Alors, réintroduire, quand tu dis la spiritualité, ça a été évoqué parce que ce n'était pas marchandisable. La poésie, l'art, alors, sauf bien sûr, tu connais comme moi, il y a toute une partie de la marchandisation de l'art, mais tout ce qui est de la créativité personnelle, de ce que toi tu fais pour t'épanouir en matière de dessin, de sculpture et tout ça, ça a été évacué, tout cet côté, c'est pas rentable, c'est pas marchandisable, comme la poésie, beaucoup de gens aiment écrire ou lire des poèmes et tout ça, ça... Les poètes, même aujourd'hui, n'ont pas de place dans notre société. Un poète a 9 chances sur 10 pour se retrouver à la rue ou à RSA, dans une société qui n'accepte ni vraiment les différences, ni surtout les gens qui ne sont pas productifs. Donc, oui, remettre au cœur des rencontres de l'écologie, au cœur de la société, au cœur du Diwa, de ce territoire, oui. Et il y en a. Et il y en a même beaucoup. Des poètes, des artistes, de la beauté. Ce sont 3 éléments qu'on vient de citer qui vont réenrichir les alternatives et la société de demain. Des choses évacuées qui ont toute leur place pour nous ouvrir les yeux, pour nous amener le sourire, pour nous faire un plaisir intérieur. Tout ça, ça a été évacué, ben, il faut qu'on le retrouve. Ce seront des parties intégrantes de la société de demain.
Écoute, je trouve que c'est une superbe conclusion. Terminons sur la beauté, la poésie, la créativité. Je te souhaite vraiment le meilleur pour ces rencontres, que ce soit un franc succès. Et je te remercie beaucoup d'en avoir parlé pour les auditeurs de Radio Diwa.
Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci à vos auditeurs quand ils écouteront ça. Et puis, à bientôt.
À l'année prochaine.